Chapitre 4. Première étape, Yama. Cette étape se traduit par la ligne de conduite ou la moralité yogique. Le yoga signifie le chemin de l'unité du soi avec l'univers, de l'âme avec l'esprit, du fini avec l'infini. C'est un chemin qui parcourt toute la vie. Si vous divisez le yoga et la vie, vous ne réussirez pas. Cette attitude résulte d'une mauvaise compréhension de ce qu'est le yoga. Il ne nie pas la vie, il ne force pas à y renoncer, mais il donne une nouvelle perspective sur l'environnement et sur soi-même. Le yoga comporte de nombreux exercices, mais son essence est de voir le divin dans tout ce qui est. Pour ce faire, il faut se libérer des illusions qui l'en empêchent. Les illusions nous ont été inculquées dès l'enfance par les gens qui nous entouraient, malheureux et ignorants. Si vous ne voulez pas être comme eux, vous devez emprunter le chemin. La morale du yoga n'a rien à voir avec la morale sociale. C'est une morale de l'esprit, et elle est nécessaire à la croissance spirituelle, c'est-à-dire à la réalisation de soi, non pas comme une partie de la société, mais comme l'univers entier, l'océan infini du divin, Satchikananda. Ahimsa, ne pas tuer. Le principe « tu ne tueras point » est connu de tous et est même puni par la loi. Mais Ahimsa n'a rien à voir avec le fait de tuer. Au contraire, toutes les philosophies de l'Inde parlent de l'immortalité de l'âme. Vous êtes immortel et personne ne peut vous tuer, pas plus que vous pouvez tuer qui que ce soit au niveau de l'âme. Cependant, notre corps est mortel, il n'est pas éternel, comme tous les objets du monde. Lorsque vous étiez enfant, vous aviez un corps. Aujourd'hui, il a changé. Et dans la vieillesse, il ne sera plus le même qu'aujourd'hui. Le principe ésotérique d'Ahimsa dit que l'homme se tue constamment. Il y a une violence constante en vous, un conflit constant entre le corps, l'essence et l'esprit. Et ce conflit vous tue, dévorant votre énergie, votre vie. Vous vous réveillez le matin, l'esprit vous dit « Il est temps de vous lever ». Vous devez aller travailler. Mais le corps ne veut pas. Il est inerte. Il y a donc un conflit entre les deux. Vous aimez quelqu'un, mais votre raison vous l'interdit. Elle dit que c'est immoral, illégal. Vos sens veulent de la joie, du plaisir. Mais le corps peut être faible et malade, ce qui conduit à nouveau au conflit. Cela vous rend faible, irritable, aigri contre le monde. Mais la cause est en vous. Le corps, les sentiments et l'esprit, comme le cygne, l'écrevisse et le brochet, qui vous tirent dans des directions différentes. Le yoga est avant tout l'unité du corps, des sens et de l'esprit. Cette unité ne peut exister que par la libération, d'une part, et le développement de la volonté en tant que capacité à contrôler le fonctionnement du corps, des sens et de l'esprit, afin de parvenir à l'indépendance vis-à-vis d'eux, d'autre part. Les conflits ne peuvent pas être supprimés. Si vous supprimez quelque chose en vous, vous ne le détruirez pas. Vous l'enfoncerez dans votre subconscient. Et de là, cette partie se manifestera, mais elle ne vous apportera pas la paix. Prenons l'exemple de l'organisation du cerveau humain. Il est constitué de petites cellules, les neurones. Lorsque vous percevez un nouvel objet, que vous le reconnaissez, les neurones sont connectés en un groupe au moyen de leurs excroissances communicatives, les axones. À l'intérieur du cerveau, il existe de nombreux groupes de ce type, qui stockent des informations sur les personnes, les phénomènes, le travail, la maison, les amis, etc. Lorsque vous vous adressez à l'un de ces groupes, vous pouvez vous souvenir d'une personne que vous connaissez ou d'un événement qui s'est produit dans votre vie. Si vous développez une bonne concentration, vous pourrez vous souvenir de tout ce qui s'est passé de manière si réelle et vivante que vous serez immergé dans ce qui vous est arrivé par le passé. Les groupes de neurones sont réunis en blocs, parmi lesquels se trouvent des souvenirs agréables et désagréables, nobles et médiocres, sages et insensés. Le cerveau est donc divisé en de nombreuses parties, entre lesquelles il y a une querelle permanente. Comme par exemple, entre la partie responsable de la moralité et la partie liée à la sexualité, ou la partie liée à votre désir d'être indépendant, autonome, libre, et la partie responsable de refléter la personne qui vous opprime et vous fait peur. Vous commencez à haïr cette personne, mais vous finirez par détruire, par des impulsions énergétiques, la zone du cerveau qui en est responsable. Le ressentiment, la haine, la colère et les autres émotions négatives sont destructrices. Vous pouvez haïr une personne donnée, même si elle n'est pas là, même si elle est morte, parce que la zone du cerveau qui l'a reflétée subsiste. La première chose à comprendre est que tout ce que vous savez sur le monde est en vous. C'est la mémoire. Mais cette connaissance vous divise, elle est conflictuelle. Chaque partie du cerveau a une certaine énergie, et une énergie est opposée à une autre. Mais il faut se rendre compte que tout cela, c'est vous. Toutes les personnes, tous les événements, même s'ils ont existé à l'extérieur, ne sont pour vous que des parties de votre cerveau, entre lesquelles il y a un dialogue intérieur permanent, des situations conflictuelles ou idylliques, qui ne se produiront peut-être jamais, y sont jouées en imagination. Et ce travail est permanent. Le yoga ne consiste pas à supprimer une partie d'une autre, mais à réunir toutes ces parties en un tout. Il existe trois façons d'y parvenir. La première est Bhakti, aimer tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur, unifiera vos parties et supprimera le conflit entre elles. Trouvez en vous ce que le monde entier aime déjà, mais ne soyez pas violent, ne vous forcez pas à aimer. Chaque partie du cerveau a un lien télépathique avec l'objet qu'elle reflète. Si vous pensez du mal de quelqu'un, vous envoyez des émotions négatives dans sa direction. Mais si cette personne n'est pas mauvaise, vos émotions ne trouvent pas d'écho et reviennent vers vous. Si par contre, vous avez réussi à influencer négativement cette personne parce qu'elle s'est avérée être semblable à vous, alors attendez-vous à un conflit lorsque vous vous rencontrerez. Ou vous, vibrant sur une impulsion hostile, deviendrez un objet d'attaque d'autres émotions négatives. Chaque partie de notre cerveau, réglée sur une certaine onde d'état émotionnel, est capable d'attirer les énergies et les informations appropriées de l'espace et d'autres personnes. La magie est basée sur ce principe. Les personnes bien informées forment en elles-mêmes une partie responsable de la réception d'émanations supérieures, c'est-à-dire d'expériences religieuses par la lecture des prières, de mantras, le service dévoué à Dieu, l'expérience des sentiments sublimes ou responsable de la réception de la connaissance par le travail créatif, la réflexion philosophique, le développement de l'intuition, etc. Cette partie plus avancée prend le contrôle du cerveau dans son ensemble. Les connaissances disponibles et les modes d'action du yoga permettent d'unifier le cerveau en un tout. C'est-à-dire que la personne devient une personnalité cristallisée, une individualité. Le moyen d'y parvenir est de surmonter le conflit entre l'intérieur et l'extérieur, dans la capacité d'exister harmonieusement avec le monde intérieur et extérieur. Om Shakti, Shakti, Shakti. Satya, la vérité. Ce principe se traduit par la vérité. Mais la vérité n'est pas seulement une déclaration véridique des faits. C'est aussi, et surtout, la libération des illusions. De nombreuses personnes se trompent elles-mêmes, tout comme la société tout entière. Par exemple, une personne pense qu'elle a de la volonté alors qu'elle n'en a pas. Elle est poussée par ses désirs. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se débarrasser de simples habitudes telles que le tabagisme, les paroles inutiles, etc. Il arrive qu'une personne, poussée par la peur de la mort, surmonte une de ses habitudes néfastes pour la santé. Mais ici, ce n'est pas la volonté, mais le désir de vivre qui se manifeste. Pour tester votre volonté, essayez de vaincre au moins une habitude, et l'homme tout entier en est simplement tissé. Une autre idée fausse est que l'homme pense qu'il est un. En fait, une personne est un ensemble de personnalités. Dans une personne peuvent coexister un bon père de famille et un bourreau, la pitié et la cruauté, le rationalisme et l'insouciance. Comme nous l'avons déjà dit, il existe de nombreuses parties du cerveau et dans chacune d'entre elles, une personne joue l'un de ses rôles. Un père de famille, un patron, un amant, un ami, etc. Il y a autant de personnalités que de sphères de manifestation de l'homme. Il est différent partout, il n'est pas le même. Il ne peut pas être lui-même, il n'est qu'un rôle. En ce moment même, alors que vous lisez ces lignes, vous êtes dans l'un de vos rôles les plus sensés, celui de l'élève. C'est cette partie qui devrait vous intégrer dans un tout. Vous avez l'illusion de penser que vous êtes un. Il y a en vous une légion de personnes qui agissent à leur guise. Chacune d'entre elles dispose d'un pouvoir de 5 minutes et fait ce qu'elle veut dans le domaine de votre être. Un nom permanent et un corps plus ou moins changeant créent une illusion d'unité qui n'existe pas encore. Chaque partie de votre cerveau a ses propres qualités, ses propres capacités. L'une peut être sage, l'autre peut être efficace dans l'action. Toutes sont essentielles à la vie. Le seul défaut réside dans leur séparation. Ces parties sont comme des serviteurs qui ne sont pas à leur place. Le garçon d'écurie dans la cuisine, le cuisinier dans l'écurie. La première chose qui vous aidera à résoudre ce décalage, c'est le manager, c'est-à-dire la personne la plus intelligente, armée des techniques d'autorégulation que sont tous les exercices de yoga. Beaucoup de gens s'attribuent ce qu'ils veulent penser d'eux-mêmes. Par exemple, qu'ils sont une âme ou qu'ils sont conscients ou intelligents. En fait, ce ne sont que des pensées qui ne correspondent pas à la réalité. L'homme est identifié au corps. Il ne se sent pas âme, mais il peut le penser. L'homme peut ne pas être conscient des processus qui le gouvernent, mais il peut se dire conscient. En faisant constamment des sottises, l'homme aime à penser qu'il est rationnel. Cela lui apporte de la satisfaction. Beaucoup de gens montrent leurs pseudo-compétences dans des domaines où ils ne sont pas compétents. Ils ont une réponse toute prête pour tout dans leur vie. Ils jugent tout dans le monde, même les choses dont ils n'ont aucune idée. C'est pourquoi le Christ a dit « Vous êtes les fils du mensonge et les filles de l'injustice ». L'esprit est littéralement tissé de mensonges et on ne peut s'en rendre compte que par une maîtrise de soi constante et impartiale. Jusqu'à ce qu'un homme devienne sincère envers lui-même, sa perfection sera autant de mensonges qu'une autre chose. Nous sommes nés dans le mensonge. On nous a enseigné le mensonge pendant de nombreuses années. Et maintenant, vous devez tout corriger. Utilisez n'importe quelle situation, n'importe quelle pensée, pour vous en rendre compte. C'est un fléau pour la vérité. C'est un discours vide et un dialogue intérieur dont l'arrêt est primordial. Asteya, ne pas voler. Au sens ésotérique, il ne s'agit pas seulement de s'approprier les objets d'autrui, car la notion même de moi et de non-moi, de mien et de celui des autres, est relative et éphémère. Asteya est le fait de ne pas se voler soi-même. Chaque être humain se vole constamment à lui-même. Si vous observez votre vie et celle des gens qui vous entourent, vous verrez qu'elle est terriblement primitive et monotone. Les gens accomplissent 5 types d'actions. Manger, dormir, travailler, se disputer et se divertir. Lorsque l'homme vient au monde, il a des possibilités infinies. Il peut développer ses talents, devenir brillant, réaliser tout ce qu'il veut, atteindre les mondes les plus beaux, devenir comme le Christ, Bouddha, Zarathoustra. Mais au lieu de cela, il est enchaîné à sa famille, à son travail, à des objectifs mesquins et à des désirs dignes d'animaux. Vous êtes comme le propriétaire d'un beau château logé au sous-sol. Vous pouvez sortir dans de belles salles, vous pouvez vivre dans toutes les pièces à la fois, mais vous ne vous en rendez même pas compte. Ce château n'est pas un million dans votre poche. Les millionnaires se suicident souvent. Tout riche, au-delà de leurs rêves les plus fous. Tout comme il est difficile pour une fourmi de comprendre la vie des gens, il n'est pas facile pour vous de réaliser vos perspectives, vos possibilités. Elles sont illimitées. L'homme est l'esclave de l'inconscient collectif. Il limite aveuglément la pensée, les désirs et les actions du cercle de personnes dans lequel il se trouve. L'homme brûle inconsciemment le temps où il travaille, comme une mule sans sens ni but. Simplement parce qu'il doit vivre d'une manière ou d'une autre. Souvent, l'homme recherche à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Il cherche la connaissance, le bonheur, le succès. Il cherche l'amour, le pouvoir, Dieu à l'extérieur. Mais tout est en nous. Le pouvoir obtenu à l'extérieur est fragile et éphémère. La connaissance acquise dans les livres, mais non étayée par l'expérience, est morte et inutile. Le bonheur extérieur est remplacé par la souffrance, la douleur et la perte. Si vous voulez quelque chose, ressentez d'abord l'état que vous voulez atteindre. Imaginez l'accomplissement du désir et vivez-le. Comprenez que vous voulez atteindre ce sentiment, cette émotion. Mais vous la connaissez déjà, elle est en vous. Il suffit de visualiser et d'expérimenter le souhait, d'intensifier l'expérience, de cultiver le sentiment. Et vous deviendrez indépendant de l'extérieur. Auparavant, pour éprouver ce sentiment, vous aviez besoin d'une impulsion extérieure, de la permission de quelqu'un, de l'opinion de quelqu'un, d'un objet. Mais maintenant, vous êtes libre. La sensation n'est qu'un mouvement d'énergie à l'intérieur du corps, et elle ne dépend que de vous. Le pouvoir, c'est la volonté, la connaissance, la conscience, le bonheur, l'amour du monde entier. Le yoga est le développement de l'activité intérieure, de l'énergie. Les gens ordinaires ne sont actifs que de l'extérieur et sont passifs à l'intérieur. Leurs sentiments, leur esprit sont déclenchés de l'extérieur. Il est nécessaire d'apprendre à les contrôler consciemment afin de ne pas dépendre de l'extérieur. Vous pouvez vous voler vous-même en vivant dans l'attente constante que quelque chose se produise, que quelqu'un fasse quelque chose pour vous, qu'un prince, un magicien vienne. Mais cela n'arrivera jamais. Tout est en vous. Vous avez besoin d'une fête, mais vous attendez un jour de congé, vous attendez des vacances, et les vacances nécessitent une permission, des collations, des boissons, des amis, des louanges, des cadeaux. Vous pouvez toujours faire la fête sans aucune raison, simplement en faisant l'expérience de cet état, en ressentant le mouvement en vous, de l'énergie cosmique qui est toujours là. Elle attend simplement que vous vous ouvriez et que vous en soyez rempli. C'est la vraie richesse. Brahmacharya, le célibat. Brahmacharya est généralement traduit au sens figuré par célibat, ce qui signifie être le disciple d'un brahman, d'un prêtre. Nous parvenons à la connaissance de Dieu par l'intermédiaire de personnes qui l'ont déjà compris, mais nous ne pouvons le comprendre que nous-mêmes. Au début du chemin, nous avons besoin d'un coup de pouce, d'un guide, d'une connaissance supérieure. Sans cela, nous ne pouvons même pas penser que nous pouvons vivre différemment. Lorsque nous avons reçu la connaissance, que nous comprenons le but de la vie et ses possibilités, nous avons besoin d'une personne pour nous réveiller, nous pousser, nous donner de nouvelles instructions. Mais le maître ne vous guidera pas personnellement. Il y a très peu de personnes éclairées et leur tâche est immense. L'enseignant ne travaillera qu'avec un groupe qui commencera à suivre activement les enseignements et dont les membres s'entraideront. Il y a très peu de gens qui sont capables de sortir seuls de la prison de l'inconscient collectif. Si vous avez déjà essayé, vous vous en rendrez compte. L'aide vous attend déjà. Si vous voulez vraiment suivre le chemin spirituel et aider au moins un petit groupe de personnes, le maître est prêt à vous aider. L'adepte initié, alors qu'il est dans le monde, apprend de la réalité la plus vraie, Brahmano. L'univers entier devient un enseignant. Chaque situation, chaque personne l'aide à identifier quelque chose en lui-même et à le réaliser. Il voit l'absolu en tout et partout. Même aujourd'hui, vous pouvez utiliser la vie pour vous réaliser. Chaque situation, chaque obstacle, car tous les obstacles ne sont pas extérieurs. Ce sont nos imperfections intérieures, et en surmontant l'extérieur, nous surmontons quelque chose en nous-mêmes. Souvent, pendant la période de Brahmacharya, un néophyte fait vœu de chasteté, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est important, c'est de préserver l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle est le pouvoir créateur de la Kundalini, qui élève notre conscience vers le divin. De nombreuses personnes, poussées par cette énergie, se détruisent en tombant dans la débauche. C'est cette force qui fait qu'une personne crée une famille, a besoin d'amour, s'occupe de quelqu'un. Si vous maîtrisez ce pouvoir, vous serez en mesure d'atteindre de grands pouvoirs et de développer votre créativité et votre esprit. Souvenez-vous de votre joie de vivre. Lorsque vous étiez enfant, et comparez cet état avec celui que vous avez après le début de la vie sexuelle. Regardez le dépérissement des personnes qui font un mauvais usage de leur force vitale. Vous direz que le sexe peut donner beaucoup de plaisir. Cependant, une bonne conservation de l'énergie peut donner un état de bonheur et d'euphorie en permanence, indépendamment du sexe. En Inde, depuis les temps les plus anciens, il existe le yoga tantra, le chemin par le sexe. Cet enseignement parle des bons rapports sexuels, le maituna, qui remplit les conditions suivantes. 1. Le maituna ne doit pas conduire à l'orgasme. 2. Il ne doit pas conduire à la fatigue et à l'épuisement, mais doit augmenter l'énergie et l'excitation. 3. Le maituna ne doit être pratiqué qu'avec un partenaire tantrique, c'est-à-dire une personne partageant les mêmes idées, et doit servir un objectif spirituel. Le tantra est plus difficile, mais beaucoup plus efficace que le célibat. Le niveau de conscience d'une personne dépend de son niveau d'énergie. Par conséquent, en conservant votre énergie, vous élevez votre conscience pour réaliser l'esprit. Gaspiller de l'énergie dans le sexe, la recherche de l'amour et le désir de prendre soin de quelqu'un vous éloigne du vrai bonheur, qui ne dépend de rien. Aparigraha, ne pas être avide. L'avidité des gens n'est pas seulement liée aux choses matérielles. Leurs opinions et même leurs objectifs spirituels peuvent devenir un objet d'avidité. Souvent, aparigraha est compris comme le contentement des petites choses, l'absence de prétention. En effet, les véritables besoins d'une personne sont négligeables par rapport à ce à quoi elle a l'habitude de penser. Le renoncement aux besoins superflus permet à l'homme de percevoir le monde spirituel supérieur. L'abandon de tout pseudo-besoin est une victoire et un progrès. Outre les besoins physiques, il faut aussi éliminer le désir limitatif d'objectifs mondains et, plus tard, d'autres objectifs. En fait, ce renoncement donne plus qu'il n'enlève. Toute sa vie, l'homme échange la lune contre un centime de cuivre. Il grogne contre le destin, se marchande contre des futilités, se prive de perspectives. Tout objectif atteignable vous limite. Dans le bouddhisme, un bodhisattva fait le vœu d'amener tous les êtres, les plantes et même les pierres à l'éveil. Et ensuite, seulement, d'aller au nirvana. Cet objectif inatteignable permet de réaliser l'inimaginable. Il donne de l'énergie et permet de réaliser que la perfection humaine est infinie. Un objectif limité diminue votre pouvoir, vous prive de liberté, limite votre croissance. Si vous ne rêvez pas de l'impossible, il est peu probable qu'il se réalise. Vous aurez certainement besoin de jalons et d'objectifs au début. Mais visez plus. Ne pensez pas que vous ne pourrez pas y arriver. Ce n'est qu'une pensée. Après avoir atteint la cristallisation de votre être, vous devrez vous débarrasser de tous les buts et objectifs. Car on ne peut pas atteindre la liberté en ayant un but, tout comme on ne peut pas entrer dans le nirvana en s'efforçant d'y parvenir. Au bout du chemin, il faut renoncer aux objectifs les plus élevés, au nom de la libération et de l'entrée dans l'incompréhensible. C'est le passage de l'action à la non-action. La non-action est une action sans but. On demande à un moine qui a atteint la libération « Comment vivez-vous maintenant ?» Il répond « Je porte de l'eau et je coupe du bois. » On lui répond « Mais nous faisons tous la même chose. » Il répond « Vous n'êtes pas dans ce que vous faites. Vous êtes dans la poursuite de la récompense, du résultat. Je me contente de l'action elle-même. » L'homme a oublié de profiter de sa vie, des choses simples. Il aspire à une récompense dont il ne sait parfois que faire. Il s'efforce d'obtenir des résultats. Il court toute sa vie jusqu'à la ligne d'arrivée. Mais la ligne d'arrivée, c'est la mort. Il faut renoncer à l'avidité et être ici et maintenant, profiter de la vie, se contenter de son destin. L'homme est toujours à la recherche de quelque chose d'extérieur. Il veut ressembler à certains idéaux, mais ce faisant, il s'éloigne de la vérité, de lui-même, oublie son individualité unique et par conséquent devient un ensemble d'opinions et de stéréotypes de la société, fermant à jamais la voie de la créativité et de la liberté. Tournez-vous vers vous-même. Vous n'êtes ni pire ni meilleur que les autres. Vous êtes unique. En ce moment, votre individualité est enterrée par les caractéristiques de l'inconscient collectif, les objectifs et les attitudes du monde. Débarrassez-vous de tout cela, il vous tue, vous apporte la souffrance, le chagrin, les difficultés de la vie. Soyez vous-même, vivez le moment présent, détendez-vous. Ne vous souciez pas de savoir si le monde vous acceptera ou non. Acceptez-le, vous-même, complètement. Ne le plaignez pas. Vous êtes meilleur pour vous-même, exactement tel que vous êtes dans votre essence. Ce qui crée votre conflit, ce sont les modèles imposés par la société qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous contraignent. Pour pratiquer aparigraha, identifiez tous vos désirs, analysez-les et relâchez votre identification, votre lien avec eux. Détendez-vous et inspirez avec soulagement en vous en débarrassant. La pratique de yama est une réévaluation de la vie. Au cours de la première étape, vous devez 1. Relire chaque jour tout ce qui vous est dit à ce sujet. 2. Analyser sa vie à la lumière des 5 principes. 3. Dresser une liste des opinions, des objectifs, des modèles qui vous ont guidé dans votre vie et essayer de briser leur réseau avec compréhension, détachement et sens de l'individualité. Pour ressentir l'individualité, vous pouvez commander dans notre espace votre propre mantra, yantra et musique pour la méditation sur votre je. La pratique d'autres niveaux de yoga n'apportera pas de résultats sans la compréhension et la pratique de yama. Le yoga n'est pas seulement un système de bien-être, c'est un moyen de changer, de se transformer d'un animal humanoïde en un homme-dieu. Si vous placez le moteur à réaction du yoga sur le chariot délabré de votre existence actuelle, il ne servira pas à grand-chose. Votre être doit être transformé par la compréhension. Chaque étape du yoga peut mener à la libération. Certaines étapes sont subsidiaires à toutes les autres, car ce sont les chemins qui nous mènent à l'étendue infinie de la liberté et du bonheur. Puissiez-vous avoir du succès dans votre travail sacré, qui est d'une valeur singulière pour vous et pour l'univers tout entier. Om. Et les gens commencèrent à poser des questions à Bhagavan. Et comme d'habitude, les premiers à les poser étaient ceux qui étaient indignés, ceux qui n'étaient pas d'accord avec la vérité. « Vous dites que l'avortement est bénéfique, » cria une femme. « Mais j'ai lu qu'en avortant, on tue l'âme. »« Comment tuer une âme immortelle ?» objecta le maître. « On ne peut tuer que le corps, mais l'âme est éternelle et immortelle. »« L'âme est immortelle et se réincarnera simplement dans une autre chair. » De plus, l'âme ne prend possession de l'enfant que lorsqu'il commence à se souvenir de lui-même. Avant cela, son âme vole et se trouve dans un état de semi-sommeil. C'est pourquoi vous ne vous souvenez pas de ce qui vous est arrivé lorsque vous étiez bébé et dans le ventre de votre mère. Si vous ne croyez pas à la transmigration de l'âme, dans le christianisme, l'âme d'un bébé va au paradis parce qu'elle n'a pas encore péché. Ainsi, en avortant, vous envoyez l'âme au paradis. À ces derniers mots, la salle se mit à bourdonner d'étonnement face à la connaissance qui venait de leur être annoncée. Car personne n'avait vraiment réfléchi à quoi que ce soit. Tout le monde avait simplement lu et cru ce qui avait été écrit auparavant, sans réfléchir de manière critique au comment du pourquoi. Comment ça ? Poursuivit en s'indignant la dame. Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire de donner naissance à des enfants. Et qui vivra sur Terre ? Je ne vous ai pas dit si vous deviez avoir des enfants ou non, répondit le sage. Je vous encourage à réfléchir à la vie et à agir de manière profondément consciente. Non pas parce que quelqu'un l'a dit ou parce que tout le monde le fait. Chacun doit penser et évaluer par lui-même s'il en a besoin ou non, puis agir. En ce qui concerne les habitants de la Terre, les humains n'apportent que des problèmes. La Terre est au bord de la destruction. Notre Terre est surpeuplée et la population continue d'augmenter. Cela conduit à plus d'usines, à la destruction des forêts et à la dégradation de l'environnement. Cela conduira le monde au désastre. En refusant d'avoir des enfants, vous rendrez un grand service à la Terre. Vous parliez de Brahmacharya, interroge un homme. Et je n'ai pas compris s'il fallait s'adonner à l'ascétisme ou au sexe, et combien de temps ce Brahmacharya devrait durer. Le Brahmacharya est l'état de l'enfant éternel, de l'étudiant éternel. Il devrait durer toute la vie, car un charya est un étudiant, et le processus d'apprentissage est sans fin. Si vous vous êtes convaincu que vous savez tout, vous êtes spirituellement mort. Vous devez être dans le processus de la connaissance, et non pas de vous considérer comme étant déjà formé, déjà adulte. C'est pourquoi le Christ a dit « Vous n'entrerez pas dans mon royaume si vous ne devenez pas comme des enfants, des êtres innocents, purs et ouverts. » Quant à la sexualité, il faut utiliser son énergie pour son développement. D'abord par l'abstinence, et après avoir appris la cèse, aussi par le tantra. « Vous parliez d'argent, et je ne comprends pas ce qu'est l'argent, » demanda un homme. L'argent est une énergie du plan social. L'énergie elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de l'endroit où vous la mettez. Si vous vous achetez un livre ou une bouteille de vodka. De nombreuses autres questions furent posées, et à toutes, le demi-dieu incarné répondit de la même manière extraordinaire, révélant aux gens une vision du monde et d'eux-mêmes. À la fin du sermon, le maître emmena tous les participants dans l'astral, leur montrant la merveilleuse terre sainte dans les trans Himalaya. Mes chéris, ouvrez vos cœurs au pouvoir divin et remplissez-vous de sa grâce, dit-il. Fermez les yeux et connectez-vous à la merveilleuse terre des initiés et sentez votre conscience y être transportée. Et vous voyez cette demeure de lumière et de vérité. Les gens virent s'approcher d'eux les sommets des montagnes d'un blanc éclatant, régnant dans le ciel bleu foncé et illuminé par la lumière du soleil. L'Himalaya. Voici la vallée du fleuve Brahmaprut. Voici sa source. Voici l'entrée, très haut dans la montagne, dans la grotte mystérieuse par laquelle on pénètre dans la ville souterraine des Trans-Himalaya. D'immenses salles de quartz étincelants, de jaspe, lapis-lazuli, fleurs de pierres précieuses. Au centre de la plus grande salle se trouve un trône d'or, sur lequel est assis, dans une pose majestueuse, le seigneur du cercle des prêtres de Kailash, Rigden Japo. Il donne sa bénédiction aux âmes qui sont entrées dans sa demeure. Et de nouveau, le chemin du retour. Inspirez et, sur l'expiration, revenez à vous. Remerciez la puissance supérieure pour ce voyage. Une autre allocution était terminée. Les gens entourèrent Bhagavan. Nous voulons apprendre. Révèle-nous la connaissance, maître. Conduis-nous sur ton chemin lumineux. Je veux devenir libre. Que faut-il faire? Les questions fusaient. La première tâche qui vous incombe est de trouver une salle où vous et moi pourrons faire des pratiques plus approfondies. Rassemblez ceux qui ont le cœur ouvert. Apportez la bonne nouvelle à tout le monde.
Souhaitez-vous en savoir plus ? Regardez le chef-d'œuvre animé qui révèle les mystères d'humanité. Découvrez plus de connaissances sacrées dans les livres. Vous pouvez rencontrer les personnages principaux des livres lors de nos séminaires. Trouvez votre amulette de puissance. Participez à un rituel individuel. Ouvrez la chaîne gratuite avec des pratiques spirituelles quotidiennes pour vous-même. Vous trouverez tout cela sur notre site web www.amazonin.org. Partagez ce livre et répandez la grande connaissance. La vie des gens changera pour le mieux, ainsi vous accumulerez du bon karma et serez en mesure d'aider tous vos proches.